Chapitre 31. Les fermes abandonnées derrière eux, Nietzsche et Bannon continuèrent leur chemin sur la route envahie par les broussailles. Les deux chèvres les suivirent un moment, mais finirent par filer vers un champ de maïs sauvage qui leur parut plus tentant que les gratouillis de Bannon entre leurs oreilles. Les fermes et les manoirs se révélèrent tous déserts, beaucoup abritant dans leurs jardins des statues répugnantes. D'où les gens avaient-ils tiré l'envie d'exhiber de telles horreurs? Nietzsche avança vers la ville, l'estomac de plus en plus noué. Qu'allait-elle découvrir encore? Malgré un climat agréable et des terres fertiles, cette région semblait abandonnée depuis des années.
Ça n'a aucun sens. Où ces gens sont-ils allés?
Nietzsche s'arrêta devant une grande demeure. Là aussi, les fleurs envahissaient tout, le jardin pareil à une jungle, et les deux grands pommiers étaient lestés de fruits à demi pourris, picorés par les oiseaux. Deux statues ajoutaient à la désolation. Un petit garçon et une fillette, tous deux à genoux, qui pleuraient des larmes de marbre. Alors que Bannon en restait bouche bée, Nietzsche maudit le sculpteur fou qui avait créé ses œuvres et les citadins aliénés qui les exhibaient ainsi. Quand Jagang avait commandé des abominations, la maîtresse de la mort ne s'en était pas émue. Primo parce qu'elle savait quel monstre était l'empereur, et secondo parce qu'elle ne valait pas mieux que lui à l'époque. Cette ville isolée, loin de l'influence de l'ordre impérial, avait opté pour une esthétique similaire, et c'était plus que troublant. Les deux voyageurs approchèrent d'un cours d'eau au pied d'une colline qui alimentait un moulin. La roue tournait toujours, mais après des années sans entretien, elle devait être décentrée et grinçait affreusement. Quant au moulin, plusieurs planches manquaient à ses cloisons. La ville comptait une bonne centaine d'habitations disposées autour de l'esplanade centrale qui tenait aussi lieu de place du marché. Beaucoup de maisons n'avaient que deux niveaux et les autres au maximum trois. Ici non plus, il ne restait pas âme qui vive. Au milieu de l'esplanade, une fontaine à sec tombait en ruine. À côté de l'échoppe dévastée d'un forgeron, une auberge se morfondait dans un silence de mort. Il y avait aussi un entrepôt, les bureaux de plusieurs négociants, un traiteur, une écurie vide et des étables au sol couvert de paille pourrie. Sur le périmètre de l'esplanade, des traîneaux et des kiosques rappelaient des temps plus heureux où le marché battait son plein. En quête de restes comestibles, des volailles faméliques erraient dans ce désert. Même si son esprit enregistrait tous les détails, Nietzsche se concentrait sur les nombreuses statues de l'esplanade. En fait, il y en avait partout. Devant les maisons, dans les jardins, près des puits, au milieu du marché. Bannon en était malade. Chaque statue exprimait une angoisse mortelle. Ses yeux de marbre pleins d'horreur et de dégoût, ou fermés pour ne plus voir la laideur du monde. Pas une bouche qui exprima autre chose que de la révulsion.
Douce mère la mère, qui peut avoir fait ça? Moi j'essaie toujours d'imaginer la beauté du monde, alors ces ignominies, pourquoi défigurer ainsi une ville?
Parce qu'ils étaient coupables, dit une voix très grave.
Nietzsche et Bannon se retournèrent au moment où un type chauve sortait d'un beau bâtiment de bois sombre qui semblait être la résidence d'un notable. Grand, mince, le crâne anormalement long et un diadème autour du front, l'inconnu traversa l'esplanade. Vêtu d'une longue tunique noire aux manches bouffantes aux poignets, une chaîne d'or en guise de ceinture, l'homme avait les yeux bleus les plus limpides que Nietzsche ait jamais vus. Comparé à son air sinistre, le gardien aurait eu l'air d'un joyeux luron. Bannon dégaina son épée, mais la magicienne avança vers le type.
« Coupable de quoi? Et d'abord, qui êtes-vous ? »
L'inconnu se redressa de toute sa hauteur. À l'évidence, il se rengorgeait d'être entouré d'abominations.
« Tous et toutes portaient le poids de leurs péchés et de leurs crimes. Les énumérer serait beaucoup trop long. »
Nietzsche soutint le regard dur de son interlocuteur.
« Je t'ai demandé ton nom, »
dit-elle, passant à plus de familiarité.
« Es-tu le dernier citadin? Et dans ce cas, où sont les autres ?»«
Je suis le juge suprême, » claironna l'homme. « Comme à bien d'autres villes, j'ai apporté la justice à Lockridge. »«
Nous sommes de simples voyageurs, » dit Bannon. en quête d'un bon repas et d'un endroit où dormir. »
Nietzsche dévisagea longuement le juge suprême.
« Tu es un sorcier, »
fit-elle.
« Je sens ton don. »«
Je suis le juge suprême, » répéta l'homme, « porteur du don et chargé de lourdes responsabilités. J'ai le pouvoir et les outils nécessaires pour appliquer la justice. »
Il étudia la magicienne et son compagnon comme s'il les disséquait mentalement en quête de leur pourriture intérieure.
« Qui t'a engagé ?»
demanda Nietzsche.
« La justice, bien sûr. Tu ne connais donc rien à rien. Jadis, je n'étais qu'un magistrat itinérant dont les gens avaient besoin en cas de procès. De ville en ville, j'étudiais les accusés qu'on me présentait. Je déterminais quelles lois ils avaient violées, j'établissais leur culpabilité, puis je prononçais une sentence. »
L'homme se tapota la poitrine.
« C'était mon don, savoir si quelqu'un disait la vérité ou non. Après avoir déterminé si j'avais affaire à un coupable ou à un innocent, rendre la justice se révélait simple et aucun dirigeant local n'a jamais contesté mes décisions. C'était notre pacte, la base de nos lois. »
La même chose qu'une inquisitrice, dit Nietzsche, sauf que tu es un homme.
L'étrange personnage ne broncha pas.
Je n'ai jamais entendu parler d'une inquisitrice. Moi, je suis le juge suprême.
Où sont les citadins ?
Demanda Bannon.
S'ils acceptaient tes sentences, pourquoi sont-ils tous partis ?
« Ils ne sont pas partis, »
répondit le sinistre sorcier.
« Mais ma mission a changé. Elle est devenue plus importante et j'ai gagné en puissance. L'amulette qui me permet de distinguer l'innocence de la culpabilité fait désormais partie de moi et je suis bien plus fort. »
Le juge suprême ouvrit sa tunique pour dévoiler sa poitrine et la fameuse amulette pendue à son cou par une chaîne en or. Un triangle d'or gravé de pictogrammes et de symboles entourant un gros grenat. Mais ce n'était plus vraiment un bijou, car le triangle ne faisait plus qu'un avec la chair de l'homme. Autour, la peau cicatrisée était boursouflée comme si on l'avait cautérisée avec un fer chauffé au rouge. Autour du cou et sur les épaules, plusieurs maillons de la chaîne avaient également fusionné avec le corps du juge suprême.
« Que vous est-il arrivé ?»
lança Bannon, les yeux rivés sur le grenat aussi brillant qu'un soleil couchant.
« Je suis devenu le juge suprême. »
L'homme braqua sur Bannon son regard accusateur.
« Des années durant, j'ai statué sur des délits mineurs. Rixes, vol, incendie volontaire, adultère, parfois un meurtre ou un viol. Mais c'est ici, à Lockridge. »
Le regard bleu sembla passer très au-dessus des deux voyageurs, comme s'il cherchait à se fixer sur les esprits du bien.
« Oui, ici à Lockridge que j'ai changé. Il y avait une femme, Reva, mère de trois adorables petites filles. La plus grande avait 8 ans et la plus jeune 3. Reva aussi était adorable à sa façon, mais son mari désirait une autre femme. Ce type, Ellis, trompait son épouse. Quand elle l'a appris, Reva a conclu que c'était sa faute parce qu'elle consacrait trop de temps et d'attention à ses enfants. Pour retrouver l'amour de son homme, elle aurait fait n'importe quoi. Une folle. Afin qu'elle ne se dresse plus entre Ellis et elle, Reva a étouffé les trois petites dans leur sommeil. Ainsi, pensait-elle, son mari l'aimerait de nouveau. Quand il est rentré, après une étreinte furtive avec sa maîtresse, elle lui a fièrement montré son œuvre, puis elle a ouvert les bras annonçant qu'elle ne vivait plus que pour lui. Après avoir vu les cadavres de ses filles, Ellis a tué sa femme avec une hachette, 16 coups portés de toutes ses forces.
Le juge suprême, le visage de marbre, marqua une courte pause, puis il reprit son histoire.
Quand je suis venu juger cet homme, j'ai posé une main sur son front. Nous pensions tous savoir ce qui était arrivé, mais grâce à mon amulette, j'ai découvert toute l'histoire et démasqué le cœur noir et pourri d'Élis. Si le crime de sa femme était atroce, il n'avait rien à lui envier. Oui, il l'avait tuée après qu'elle eût assassiné leur fille. Personne ne doutait des faits, mais pas mal de gens comprenaient ce geste. Pas moi. Et en Élis, j'ai découvert une bien pire culpabilité. Avait-il tué Reva pour venger ses filles? Pas le moins du monde. En secret, il se réjouissait d'être débarrassé de sa famille, un fardeau qu'il ne supportait plus. En maquillant son acte en crime passionnel, il escomptait s'en sortir. Alors que la culpabilité de ce monstre déferlait en moi, la magie de l'amulette a gagné en force et je l'ai déchaîné sans retenue. Furieux et révulsé, j'ai obligé Élis à sentir sa culpabilité. Oui, je lui ai fait revivre l'horreur de son acte aux motivations si méprisables. Quand son esprit a été envahi, j'ai gelé les choses en l'état. En d'autres termes, j'ai transformé ce salaud en pierre au moment où il éprouvait la pire honte de sa vie. Le juge suprême eut un long soupir. Déchaîner cette magie m'a libéré. Il passa les doigts sur la cicatrice autour de l'amulette. Ce jour-là, j'ai cessé d'être un simple magistrat capable de démêler le vrai du faux, et je suis devenu le juge suprême. Son ton changea, plus menaçant. Ma mission est de protéger ces terres. Pour ça, je dois débusquer tous les coupables. Pas question d'autoriser des voyageurs à traverser les montagnes pour atteindre la vallée fertile au-delà. Ma tâche est d'enrayer la contagion de la culpabilité. Bannon recula d'un pas, épée levée. Elle aussi prête au combat, Nietzsche ne bougea pas d'un pouce. « Tu as jugé tous ces gens ?» demanda-t-elle. « Jusqu'au dernier. Seuls les innocents ont le droit de vivre. De quoi es-tu coupable, magicienne ?»«
Ça ne te regarde pas, » lâcha Nietzsche.
Pour la première fois, les lèvres du juge suprême dessinèrent ce qu'on aurait pu prendre pour un sourire.
« Bien au contraire !» Sur l'amulette, le grenat brilla plus fort.
Nietzsche se prépara à frapper avec son pouvoir, mais elle s'en découvrit incapable. Paralysée, elle ne pouvait ni marcher ni lever les bras.
« Que se passe-t-il ? »
s'écria Bannon.
« Je suis le juge suprême !» L'homme avança. « À tous les criminels, j'impose le même châtiment. » Revivre leur pire moment de culpabilité, pour l'éternité. Transformée en statue, la magicienne exprimera jusqu'à la fin des temps sa révulsion et sa haine d'elle-même.
Les jambes en plomb, Nietzsche ne parvenait plus à tourner la tête. Du coin de l'œil, elle vit que ses mains et sa robe noire se transformaient en marbre.
« Si tu es sans tâche, tu n'as rien à craindre, » dit le juge suprême. « Je sais être équitable parce que c'est mon devoir. »
Nietzsche tenta de résister, mais sa vision se troubla. Un bourdonnement monta à ses oreilles comme si des milliers d'abeilles envahissaient son crâne. Même si elle ne le voyait plus, elle entendit les paroles du sorcier fou.
« Hélas, en ces contrées, je n'ai jamais rencontré un seul innocent. »